Chers amis, bonjour. J'ai pas loin. Chers amis, bonjour pour ce nouveau Libre Journal. Chers amis, en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui est basé à Lyon. Ah, c'est une ville évidemment qui a fait beaucoup parler d'elle. Et donc cette émission ne va pas s'adresser aux familles islamo-gauchistes qui voudraient absolument inscrire leurs enfants étroitement encadrés par la milice mélenchoniste. Mais vous savez qu'il existe une véritable école de sciences politiques qui est à Lyon, donc j'appelle les Lyonnais évidemment à profiter de cette chance. Il se trouve que il est plus que jamais utile de parler de l'école, parce que le meurtre de Quentin, c'est décidé à l'école. À l'origine, il y a l'école, ses programmes scolaires et ses enseignants. Dès la petite enfance, on y apprend que le plus bel événement de l'histoire du monde fut la Révolution française, que le pire des régimes est la monarchie. Juste après lui se rend Hitler, qui au moins avait eu le mérite d'être élu. La Hollande, rivale de Louis XIV, était un havre de tolérance et de liberté. L'esclavage est une invention européenne, plus exactement à l'initiative de l'Église. C'est authentique, une de mes filles l'a entendu en classe. La basilique du Sacré-Cœur procède d'une volonté revancharde après les massacres de la Commune. Lénine était un homme bon, c'est Staline qui a tout abîmé. En créant l'ancêtre du KGB, mensonge, et le Goulag, mensonge, l'Allemagne de l'Est était un paradis égalitaire, injustement absorbé par l'Allemagne de l'Ouest, qualifiée de quatrième Reich sur une radio pictave d'origine catholique. Et tout le reste à l'avenant, on pourrait en écrire une encyclopédie. Suivant les instructions données par l'URSS durant l'entre-deux-guerres, tout ce qui n'est pas communiste sera appelé fasciste. La consigne a été suivie. De Gaulle lui-même en 1958. Était traité de fasciste dans un défilé de la gauche unie protestant contre son retour aux affaires. Plus tard, Sartre, qui s'est tourné les pouces durant l'occupation, dissertait doctement sur la question de savoir si l'homme du 18 juin était fasciste ou pas. Bon, après la chute de l'Union soviétique, l'imaginaire des jeunes gens endoctrinés par l'école s'est déporté vers la guerre d'Espagne, un des rares exemples où ce sont les vaincus qui en ont écrit l'histoire, avec la complicité bien sûr de l'élite intellectuelle occidentale. Aujourd'hui, le rêve des jeunes gauchistes est de réussir de notre côté des Pyrénées, ce que leurs modèles n'ont pas réussi au-delà. Et pour ce faire, ne parvenant pas à obtenir une majorité, malgré leurs alliances de circonstances et fructueuses avec la droite de Carrière, ils savent que la seule solution est dans la violence. Tout est permis contre un fasciste, voire un nazi, comme ils appellent Quentin. L'école ne leur a rien appris d'autre, ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter correctement, mais ils savent que Quentin était un nazi. La République leur est favorable, la magistrature est largement occupée par la gauche, la presse est quasi unanimement écrite par la gauche, les médias sont très majoritairement animés par la gauche, après l'avoir été longtemps unanimement jusqu'à Bolloré. Quant à la police, il y a celle des sans-grades, les ACAB, All Cops Are Bastards, tous les flics sont des bâtards. Ces incultes américanisés n'auraient même pas su le dire en français, qui se font donc insulter dans la rue. Mais au-dessus, au niveau des décideurs, il y a les commissaires et les directeurs largement de gauche, eux aussi. Autrement dit, tout le système s'oppose à ce que justice soit rendue à Quentin. De fait, la gauche impunie se sentira pousser des ailes et les meurtres continueront de plus belle. Ça a commencé avec Kirk, ça continue avec Quentin. Mais est-ce que c'est fini avec Quentin ? Les islamo-gauchistes continueront d'autant mieux que ceux qui, à droite, voudraient réagir croient devoir rendre hommage à la mémoire de Quentin en chantant la Marseillaise, comme on l'a entendu à Lyon. C'est-à-dire précisément le chant fondateur de la gauche. Et oui, la libération politique passe par celle des consciences, mais cela, visiblement, on en est encore loin. Alors là, l'émission, évidemment, s'intitule « Réussir à l'université ». Mon invité est un étudiant déjà bien avancé puisqu'il prépare son CAPES. Quand on est de droite, j'aurais probablement dû dire plutôt survivre désormais à l'université quand on est de droite, compte tenu des événements qui s'accélèrent en France. Et il faut bien reconnaître que alors, s'agissant des journalistes, par exemple, il y a une anecdote qui a été racontée il y a quelque temps par un ancien élève de l'école de journalisme de Lille. Il raconte qu'en 2012, Sarkozy étant président et souhaitant se représenter, il avait contre lui Hollande, et les étudiants s'étaient amusés, de l'école de journalisme de Lille, s'étaient amusés à organiser des élections. Alors heureusement, elles étaient, le vote était secret, heureusement, un jour ça changera, mais enfin pour l'instant le vote était secret. Et alors, il y avait un niveau absolument incroyable. Alors, sachant que Sarkozy était le président sortant, il n'y avait aucune voix pour Sarkozy. Aucune. C'est pas un peu, c'est aucune. La majorité des voix, c'était Hollande, avec le troisième homme, si on peut l'appeler ainsi, qui était la fameuse Norvégienne, la écologiste, qui a fait en revanche 2% dans le vrai monde, hein, quand elle s'est présentée à la présidentielle. Évidemment, aucune voix Le Pen, pas plus que Sarkozy, tout ça c'est déjà le fascisme et le nazisme. Hein. Et il y avait un type, le type qui raconte ça, il en pinçait pour Dupont-Aignan, donc il avait mis dans l'urne un bulletin Dupont-Aignan. Et avec vraiment la plus grande sincérité, les organisateurs de cet exercice, disons, voyant un bulletin de Dupont-Aignan, ont cru, mais sincèrement, que quelqu'un leur avait fait une blague. Donc ils ont compté le bulletin comme un bulletin blanc. Donc il y avait absolument zéro plus zéro voix de droite. Il y avait, en fait, Hollande et concurrencé par cet écologiste, là j'oublie son nom, qui était franco-norvégienne, qui était une juge, bon bref. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'entre-soi. Marcel Gaucher et Pierre Manant ont parlé récemment du drame de Quentin, et ils disaient très justement que des secteurs entiers de l'université sont devenus des parcs à thème, j'adore l'expression, des parcs à thème, pour post-adolescents en recherche de leur voie. Il est bien vrai que la majorité des thèses sont désormais des thèses tournent autour de thèmes wokistes. Le recrutement des profs, lui, se fait sur des critères idéologiques en dehors de toute compétence, et il en résulte évidemment une ignardise crasse perpétuée. Mais comment? Par absence totale de concurrence. Et voilà ce que c'est que le résultat de l'entre-soi. On va citer un seul et dernier exemple, parce qu'on pourrait là aussi écrire une encyclopédie. Il y a un monsieur qui est prof à Sciences Po, qui s'appelle Guillaume Fard, présenté comme historien. Bon. Alors lui, il a vu sur la banderole de l'hommage rendu à Quentin à Lyon, il y avait un chrisme, c'est le labarum de la Rome christianisée depuis Constantin, l'empereur Constantin. Ça représente un qui, alors c'est une lettre grecque, désolé, hein, monsieur le professeur, parce que maintenant ils sont professeurs, tous ces gens-là, et du supérieur, c'était fantastique. Et alors, c'est un qui, c'est-à-dire, ça a la forme d'un X, mais en fait, c'est KH, si on veut, ou CH plutôt, CH. Et puis un rho, alors là, un rho, ne croyez pas, c'est le R. Hein, alors ça, c'est l'alphabet grec, alphabeta, gamma, delta, epsilon, zeta, et tata, iota, kappa, lambda, minu, xi, omicron, pyro, sigmato, epsilon, phi, psi, oméga. Voilà. Et ce sont donc les deux premières lettres de Christos, hein, qui veut dire le Christ, en grec, ce qui. et qui croise un rho, mais un R, qui a la forme d'un P, si on peut dire, dans notre langue à nous. Donc ça, c'est le lapin rhum de la Rome chrétienne. C'était le symbole, disons, de la Rome christianisée depuis Constantin. Lui, ce grand professeur, historien, hein, attention, il est historien, Guillaume Farde, bon, professeur à Sciences Po, pour lui, c'était un symbole d'extrême droite. Évidemment, il connaît rien du tout, rien. Donc, comme c'était brandi par des nazis, et que c'est un signe qu'il ne connaissait pas, il a dit, ben, ça, c'est un symbole d'extrême droite. Mais on en a eu d'autres, hein. À l'époque des Gilets jaunes, le A de l'anarchie était représenté par un grand spécialiste. Ils ont toujours des spécialistes de plateau extraordinaires qui disaient que c'était un signe d'extrême droite, alors que le A de l'anarchie, un A dans un cercle. Tout le monde sait bien que c'est l'anarchie. Voilà. Voilà comment on arrive à ce niveau-là. Alors, je répète aux parents, hein, ou aux grands, disons, puisque l'ICEP recrute à partir du bac plus 3, enfin, de ce niveau-là, pour faire ensuite 4e et 5e année. Si vous souhaitez ce genre de prof, allez-y, mais allez-y, allez-y. Hein. Le chrisme qui est représenté comme interprété comme un signe d'extrême droite. Bon, il y a un constat officiel, c'est non seulement l'ignardise totale de l'enseignement supérieur, et alors je ne parle évidemment pas des enseignements primaires et secondaires, et cette ignardise, évidemment, a ouvert la porte à différentes choses, notamment la pénétration de nos universités par l'islamo-gauchisme. C'est exactement ce qui se passe, évidemment, avec cette succession de meetings, car ce sont évidemment pas des conférences, ce sont des meetings organisés par une Palestinienne opportunément devenue française, la fameuse et très jolie Rima Hassan, qui, elle, se sert de son mandat de députée française pour ne parler que de la querelle israélo-palestinienne, et évidemment l'entrisme islamo-gauchiste. Alors, il y a une ministre qui s'appelait Frédérique Vidal, elle était ministre de l'enseignement supérieur sous Édouard Philippe. Puis Jean Castex, elle avait osé parler de l'islamo-gauchisme à l'université et elle avait demandé même une enquête. Bien entendu, cette enquête ne s'est jamais faite parce que les universités ont refusé de la faire. Et quand vous êtes, on peut pas dire que c'était quelqu'un d'extrême droite, la malheureuse Frédérique Vidal, mais enfin, quand vous n'êtes pas vous-même un gauchiste comme ministre de l'enseignement supérieur, ou de l'enseignement en général d'ailleurs, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez donner toutes les consignes que vous voulez, vous ne serez pas obéi. Alors, je vais inviter, j'ai demandé qu'on ne soit pas filmé, parce que, ben voilà, on sait que la gauche tue, hein, donc il faut faire attention. J'ai invité quelqu'un, j'aurais pu l'appeler lieutenant X en souvenir de l'excellent Vladimir Volkov. Finalement, je l'ai appelé, je sais plus comment. Il y a André, comme on va dire André. C'est quoi?
Vous voulez le nom dont,
oui,
dont
on a votre pseudo?
Alors, André de Villers-Farley.
Voilà, bien sûr que faire comme ça, personne ne reconnaîtra, c'est pas grave. Mon cher André, en tout cas. Mon cher André, vous êtes-vous un grand étudiant qui avait déjà l'expérience de l'université? Puisque vous avez connu en droit et en lettres, là vous préparez votre CAPES, vraiment, et vous rasez les murs, bien entendu, vous faites très attention, vous vous masquez, voilà. Alors, vous allez pouvoir nous parler du climat à l'université, de votre expérience, et on peut dire que tout commence quand? La fameuse 68?
On peut dire que 68 a été un déclencheur. Il y a toujours eu dans l'université française des tendances de droite, de gauche. L'université, par définition, est aussi un lieu de discussion, de débat. Donc ça a toujours existé. On peut dire qu'à partir de 68, la mobilisation des étudiants, soutenue souvent, parfois, par des professeurs, a donné naissance à quelque chose. Mais en principe, c'est pas forcément très embêtant, et on peut considérer que effectivement l'université est devenue davantage un lieu de débat. On a connu dans les années 70-80 les discussions les deux camps entre Aron et Sartre qui ont déchaîné la chronique et qui étaient source de vifs débats dans les universités, qui certes avaient tendance petit à petit à pencher de plus en plus vers Sartre que vers Aron, mais c'était encore encore quelque chose de d'intéressant et qui laisser malgré tout place à la discussion. Le problème, c'est que la gauche intellectuelle de l'époque est devenue aujourd'hui une gauche qui est tout sauf intellectuelle en réalité et qui est une sorte de réaction à l'actualité complètement matrixée, complètement influencée par les médias mélenchonistes, par la propagande gauchiste qu'on subit au quotidien.
Excusez-moi, je vous interromps parce que les fameux professeurs que j'ai cités, Marcel Gaucher et Pierre Manant, disent une chose intéressante parce que moi je l'ai vécu ça pour le coup. Alors il n'était plus du tout question de prendre le parti de Raymond Aron, hein, s'il fallait être sartrien. Mais disaient-ils ces deux-là, et ça j'ai vécu ça parce que j'ai été fait docteur en 90, donc j'ai fait toutes mes études durant les années 80. En fait, c'était des gauchistes, mais ils respectaient un peu leur travail quand même, et il y avait une exigence intellectuelle qui faisait que, je peux dire, j'ai été formé par eux, quitte à les combattre par la suite. Là, vous êtes en train de confirmer qu'il n'y a même plus du tout ça.
C'est absolument pas.
Le fameux machin Farge, là, qui prend le symbole de Constantin pour
On est exactement dans ce schéma-là. C'est-à-dire que une gauche intellectuelle pour laquelle on pourrait éventuellement avoir du respect, républicaine bien sûr, mais qui au moins a une certaine philosophie, se penche, croit en quelque chose de construit, réellement. Là aujourd'hui on est vraiment dans la réaction, rien n'est construit, rien n'est... Si on essaie de discuter avec un de ces militants, étudiants, professeurs, on touche très vite le fond, ça ne repose sur rien.
Donc en fait, c'est des discussions. Autrefois, on disait des discussions de comptoir.
C'est exactement
entre
ça.
Entre deux, à moitié ivrognes, qui disaient que si j'étais le gouvernement, comment que je te les mettrais tous d'accord ?
Exactement, et je pourrais vous citer, et je vous citerai différents exemples qui sont assez édifiants.
Alors, vous en avez un en tête ou pas ? Peut-être que ça va venir à force de me parler, non ?
Ça va venir à force de vous parler, mais je peux vous en citer si vous le souhaitez. Il y a de quoi dire. Là, l'université est gangrénée, donc on en a tous les jours. Ouais. Tous les jours des preuves.
Ouais. Donc, vous dites, vous situez ça à partir de mai 68, d'accord ? Et disons, au sortir des années 80, là c'est le naufrage général, voilà, c'est-à-dire que même l'exigence intellectuelle a disparu. Ce Sartre s'exprimait très bien,
oui.
Simone de Beauvoir écrivait très bien, c'est très agréable de lire les mémoires de Simone de Beauvoir.
Mais tout à fait, et puis voilà, il y avait une construction intellectuelle. Bon, certes Sartre a beaucoup piqué à Heidegger et beaucoup piqué à de nombreux philosophes.
Il n'est pas le philosophe majeur qu'on présentait.
Voilà, exactement, on en a fait beaucoup sur quelqu'un qui en réalité... ne sait pas seulement tourner les pouces pendant la guerre 49-45, mais c'est aussi pas mal tourner les pouces quand il réfléchissait apparemment, puisqu'il réfléchissait beaucoup plus avec les autres qu'avec lui-même. Donc, si vous voulez, effectivement, Sartre n'est pas la personne qu'on en fait, et ça, on commence enfin à le dire un petit peu, ça se savait, mais on commence enfin à le dire. Je vous renvoie au très bon livre. Enfin, que j'ai moi en tout cas apprécié de Franz-Olivier Gisbert sur la Ve République, où il aborde ça de manière assez profonde.
Alors on va rassurer quand même les gauchistes, hein, ne vous inquiétez pas, on va opposer à Sartre d'autres grands révolutionnaires qui ont soutenu les pires régimes de la planète,
mais
qui ont quand même une qualité intellectuelle plus importante. Je pense à Michel Foucault, par exemple, ou Deleuze,
tout à fait, qui
sont plus hauts que Sartre, bien entendu.
Ouais. Tout à fait. Sartre était l'exemple typique, mais effectivement, il y en a, vous avez tout à fait raison, il y en a plein d'autres.
Donc voilà, le naufrage commence dans les années 90, et puis ensuite, alors aujourd'hui, on en arrive où, dans les années 2020 ?
Alors, aujourd'hui, pour moi, il y a deux phénomènes majeurs que je différencie, même s'ils se rejoignent, hein, parce qu'il y a une véritable convergence des luttes en réalité. Même si elle est assez antinomique quand on va chercher un petit peu au fond. Mais bon, je distingue deux phénomènes. D'un côté, l'islamo-gauchisme, et d'un autre côté, le wokisme, qui, dans tous les cas, finissent par se rejoindre, mais qui ont des logiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui ne se caractérisent pas forcément de la même manière au sein de l'université. L'islamo-gauchisme, qu'est-ce que c'est ? Ça, il y a plein de manières différentes de le voir. Une des plus flagrantes, peut-être, et récemment, c'est lors du fameux conflit israélo-palestinien, toutes ces facs qui ont été bloquées en soutien à Gaza. Sans qu'on cherchait là également à discuter un petit peu avec les militants, avec les étudiants, bon, on voyait que ça ne volait pas très haut non plus, mais voilà, génocide à Gaza, donc soutien, et donc bien sûr, parce qu'il y a un génocide à Gaza, si génocide il y a, mais il faut bloquer les facs, parce que bloquer la fac va bien sûr régler et participer à sauver les Gazaouis.
Régler la question israélo-palestinienne,
bien sûr.
Elle n'a jamais été réglée depuis 1947, mais disons que...
Exact, mais on ne sait jamais...
Bloquer les facs, on ne sait jamais...
Peut-être que le blocage de la fac de Rennes peut réussir à sauver quelque chose, je ne sais pas.
Alors Rennes, il y a deux facs, hein. Il y a Rennes,
alors, c'est Rennes
1 et Rennes 2.
Rennes 2, en l'occurrence.
Donc, la fameuse catastrophe, c'est Rennes 2.
Tout à fait.
C'est des villes où il ne fait plus du tout bon vivre.
Ah non, mais d'ailleurs, je vous renvoie là aussi à un excellent documentaire qui est passé récemment sur une chaîne bolloréenne,
oui.
Qui a infiltré Rennes 2, une étudiante qui a infiltré Rennes 2 avec une caméra cachée et qui montre effectivement à quel point cette fac est complètement dévorée par l'idéologie wokiste, islamo-gauchiste, et que c'est devenu en fait impossible, ne serait-ce que d'étudier, mais également d'enseigner là-bas. Les rares professeurs avec un petit peu de talent, il y en a encore quelques-uns, c'est rare, mais il y en a encore quelques-uns, ne peuvent pas enseigner.
Ce sont des vieux ou c'est des jeunes qui ont...
C'est quand même beaucoup des personnes en fait, de l'ancien monde. C'est des personnes qui datent de ces années 70, 80, qui ont largement parfois l'âge d'être à la retraite, et qui continuent à enseigner, et qui sont un petit peu à l'ancienne. Qui sont assez rapidement ridiculisés par les élèves également, d'ailleurs, et critiqués pour cela. Et on est sur la fin d'une génération.
Oui, je me souviens. Il y a des noms, pourtant. Je me souviens de Le Zakmer, par exemple, qui était un grand professeur de mythes. C'est un spécialiste des mythes, un peu comme l'auteur du Seigneur des Anneaux. Là, c'était un spécialiste des mythes. Et il était donc prof de lettres. Et il rasait les murs, hein. Il a écrit notamment Fils de la Veuve, qui est un ouvrage tout à fait remarquable, et il souffrait beaucoup à Rennes. Alors, il y a eu un autre événement, beaucoup plus récent pour le coup, qui était quelques cours dispensés en droit par celui qui est un peu le vaisseau amiral de la persécution, bien malgré lui, universitaire, qui est colonel de Beausaison, à qui on avait confié quelques cours... Ah ben non, c'était pas la fac, c'était le cours de commerce, mais c'est pareil, maintenant, de toute façon, le islamo-gauchisme est en train d'envahir tout le système. Et il a été dénoncé par des islamo-gauchistes, il a fallu qu'il rompre son contrat, etc. Et donc Rennes, ça va pas très fort.
Et Rennes est de plus en plus partout, par ailleurs. Hein. Mais vous avez
oui, bien sûr.
De plus en plus partout. Pour aborder par... ces enseignants ou même ces intervenants parfois qui sont privés, je pense à la fac de Bordeaux-Montaigne, Sylviana Gazinski, qui était venue il y a quelques années pour faire une conférence au moment où la femme de Jospin,
donc
qui n'est quand même
pas dire
on peut pas la soupçonner d'être une fasciste a eu malheureusement le malheur de s'opposer à la PMA sans père pour les couples homosexuels et a été interdite de conférence à Bordeaux, n'a pas pu tenir sa conférence à Bordeaux. Bordeaux qui petit à petit, Bordeaux-Montaigne, devient une fac, hein, là aussi également extrêmement infiltrée par tous ces réseaux wokistes et islamo-gauchistes. Elle n'a pas pu tenir une conférence, la femme de Jospin.
C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat possible, il n'y a même pas de contradiction qui était une des gloires de l'université, je parle dans son esprit fondateur médiéval, qui était la disputation.
Tout
il
n'y
a
fait.
Même pas ça, c'est vraiment la pensée unique.
Cela n'existe plus, car vous êtes fasciste, si vous exprimez un avis contraire à la vie antifasciste, et donc dans tous les cas, c'est malheureusement ce qu'a subi Quentin.
Et là, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a sorti sur Facebook quelque chose de que j'ai trouvé très bien, très beau, enfin terrible. C'est que je me demande si on n'a pas franchi un cap, parce que cette personne disait il ne vous tue pas parce que vous êtes fasciste. Ils disent que vous êtes fasciste pour pouvoir vous tuer. Donc en fait, il y a une sorte de...
Le syllogisme inversé,
oui,
quelque chose.
Et puis, disons, de pulsion de mort. de pulsion de mort qui fait que si je veux m'autoriser à tuer, il faut que je les traite de nazis et de fascistes. Et comme ça, évidemment, je n'hésite pas à tuer. De la part de gens qui se réclament d'idéologie, qui ont été complices d'Hitler
bien sûr.
Jusqu'en 41 quand même. Hein,
bien donc, sûr.
et qui veulent faire passer Lyon pour une capitale d'une résistance de gauche, alors que c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Hein. Lyon est effectivement une capitale de la résistance, mais les grands résistants ont d'abord été de droite, ceux qui ont rejoint
notamment l'Action française.
Oui, absolument. L'Action française s'est déchirée.
Oui.
Donc là, il y a effectivement les blocages. Donc les blocages devraient pouvoir arranger l'affaire. En même temps, on les comprend puisqu'ils n'apprennent rien. Et on voit pas comment leurs profs pourraient leur enseigner quoi que ce soit, puisque eux-mêmes, vous avez vu le type que j'ai cité, avec le chrisme, il est pas capable de faire la différence entre un symbole chrétien et le nazisme, ce qui fait que les profs sont aussi complices, en fait, de
Mais
cela.
Les professeurs sont complètement complices, complices à un point même qu'on peut parfois ne pas le concevoir, c'est-à-dire sont complices au point de les inciter à bloquer. De les inciter à ne pas aller en cours pour se rendre à l'Assemblée Générale des étudiants révoltés qui sera à telle heure. Voilà, donc vous avez cours avec moi, mais ne vous inquiétez pas, je vous libère pour que vous puissiez y aller. D'ailleurs, j'y serai également, je ne ferai pas cours. Ah, d'accord, donc pourquoi pas
ouais,
et
ouais.
Puis ce n'est pas un professeur, c'est 2, 3, 4 professeurs. Et ça, je vous parle d'une fac dans laquelle j'ai été, et je vous parle de ça il y a 2-3 ans auparavant.
Racontez-nous une petite anecdote quand même avant qu'on observe une pause. Une petite anecdote qui vous parle de ça, c'est quelque chose qui vous aurait frappé ou en fait le prof était au même niveau que les étudiants quoi. Mais c'est uniquement pour faire du gauchisme ou vraiment il se passionne pour le prétexte parce que on n'a pas attendu Gaza quand même la guerre de Gaza pour avoir des blocages et la convergence des luttes.
Tous les prétextes sont bons.
Ouais.
On a tout eu, il y a eu la loi immigration. Souvenez-vous de la loi travail en 2017.
Oui.
Pareil, blocage.
C'était El Khomri, hein.
Qui
ne savait pas que.
Un CDD était renouvelable.
CDD, voilà, c'est comme ça qu'on recrute des ministres dans cette république. Ouais, c'était intéressant, ça. Tu ne savais pas ce que c'était qu'un CDD. C'est un peu comme notre historien, là. Vous voyez, d'expert qui est prof à Sciences Po. Ouais. Donc, elle avait fait, bien malgré elle, la loi El Khomri, effectivement.
Mais.
Et effectivement, là, tout le monde se retrouve. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le nouveau drapeau, désormais, c'est le drapeau de la Palestine, le drapeau des Palestiniens.
Tout à fait.
Beaucoup plus que le drapeau rouge. On voit maintenant qu'il y a. Alors, il y a évidemment le drapeau LGBT, mais c'est quand même surtout Palestine.
Alors, oui, ça, vous ne verrez pas dans nos facs françaises le drapeau français. Hein. Vous verrez bien sûr le drapeau palestinien, éventuellement, effectivement. Le drapeau rouge, le drapeau de la CGT et le drapeau de quelques différents syndicats étudiants par exemple, bien sûr de gauche, mais non.
Mais c'est à se demander si la plupart des jeunes écervelés, parce qu'ils sont vraiment écervelés, mais
oui.
Dans le sens de, je m'adresse à quelqu'un qui prépare son CAPES, dans le sens de cette pièce de théâtre sur Ubu, vous savez.
Uburoi
avec la machine à décerveler. De retirer le cerveau de ces malheureuses victimes, le père Ubu décervelle. Donc là, c'est la même chose. Et je me demande si ces gens-là sauraient même ce que c'est que le marteau et la faucille sur un drapeau rouge.
Oui, il y aurait de quoi se poser la question. Alors, pour décerveler, ça comprend qu'il faille quand même avoir une cervelle auparavant. Sauf qu'aujourd'hui, quand on sort du collège ou du lycée, quand on voit parfois le niveau, je peux vous le dire, c'est
du fromage blanc.
C'est du fromage blanc.
Oui, mais enfin, il y a quand même un organe qui était
en organe,
principe.
Je vous confirme.
Là,
il y a un organe a priori, mais je pense que les chargés de décervelage n'ont pas beaucoup de boulot à faire. Il est assez bien fait tout seul.
Ça s'est fait avant l'université, en fait.
Oui,
vous voulez dire.
Pour beaucoup,
ouais, c'est ça. Ouais. Et de fait, on en revient. Vous allez me dire que je suis obsédé par Marcel Gauchet permanent. Non, parce que quand il parle de parc à thème pour post-adolescent, c'est une citation. Hein. En recherche de leur voix, c'est effectivement, ce sont des malheureuses victimes. Il est 14h30, on va peut-être observer une petite pause avant de reprendre. Thank you.
trois chiffres à donner.
Chers amis, nous nous retrouvons pour faire parler quelqu'un qui est encore étudiant, disons, bon, il va passer son CAPES, alors il est évidemment, on va l'appeler André, parce que il s'agit quand même de le protéger, on ne veut pas qu'il soit tué, qu'il meure, en tant que nazi, évidemment, il le mériterait certainement, mais enfin, bon, nous, on ne le veut pas. Et il pourrait citer quelques exemples. Il y en a un que vous me donniez hors antenne, qui est assez extraordinaire, c'est à propos de Mediapart.
Tout à fait, nous avons sur le site de l'université, à laquelle je fais partie, des sources assez illimitées dans les archives que nous pouvons utiliser, bien sûr, pour nous documenter, pour nos documents, nos mémoires, etc. Et dans ces sources dans lesquelles on peut piocher, il y a également un organe de presse auquel nous sommes abonnés, l'université est abonnée et auquel nous avons accès, en libre accès total, c'est Mediapart. Voilà, nous avons un libre accès à Mediapart.
Un accès gratuit.
Gratuit.
Alors, ce qui serait intéressant, mais il nous faudrait un Charles Lalonde. Pas seulement le Charles Lalonde qui est en train de faire ce travail extraordinaire de de mise à jour du scandale de l'audiovisuel public qui à lui seul mange la moitié du budget de la culture. Vous me direz, compte tenu de ce qu'ils font pour la deuxième moitié, c'est pas trop grave. Enfin, sauf que le patrimoine, lui, se détériore pendant ce temps-là, pendant que... qu'est-ce qu'il a trouvé déjà, 120 000 euros de frais de bouche. J'aurais adoré, moi qui adore tellement les petits fours et tout ça. Et oh là là, les trucs au saumon, aux œufs de limpe, aux crevettes, avec du champagne et tout ça. J'aurais adoré ça. Enfin, malheureusement, je suis pas dans l'audiovisuel public. J'ai connu à une époque quelqu'un qui travaillait à Radio France. Il était. Lui, sa vedette, hein, son modèle politique, c'était Bayrou. Et ben, il était surnommé le facho à Radio France. Ses copains, là, il lui cassait pas encore la figure. Hein. On est là vers un peu au-delà de l'an 2000 à peu près. On est vers 2002, un truc comme ça. C'est le facho parce qu'il votait Bayrou. Vous imaginez le niveau de ces gens-là. En tout cas, 120 000 euros par jour de petits fours. 4000 euros par jour de taxi, le président de notre chaîne disait, mais où vont-ils à Paris pour dépenser 4000 euros par jour? Bon, donc là, il y a quelque chose. Ah, l'oncle est en train, évidemment, de mettre ça à jour, et il a beaucoup de mérite, puisqu'il a même contre lui, très souvent, son propre président de commission. Ça serait intéressant de savoir si Mediapart met véritablement, gratuitement, à disposition. C'est une question que je pose, hein. Il n'y a aucune affirmation, je ne veux pas qu'on me traite de je sais pas quoi. Est-ce que vraiment Mediapart, dont on sait très bien qui est le patron, qui est alors lui un communiste rouge vif, met à disposition cet outil à la disposition des étudiants, est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'il a vendu quelque chose à l'université et l'université en fait le don à tous les étudiants, s'y arrive. Bon, ça serait intéressant là, parce que évidemment, c'est, je dirais pas un conflit d'intérêts, mais c'est à l'oncle, il est en train d'en mettre à jour un nombre incroyable de conflits d'intérêts. Mais il y a quand même quelque chose de tout à fait immoral. Mais de toute façon, quand c'est pour leur intérêt, il n'y a pas d'immoralité. Hein, l'immoralité à trois. Donc il y a ça. Il y a, vous êtes abonné gratuitement à Mediapart. Vous me direz autrefois, notamment au Monde, alors il n'y avait pas d'abonnement gratuit, mais à Sciences Po, on disait lisez le Monde. C'était la grande supercherie, on disait le Monde, c'est le journal de référence, parce que il est apolitique, vous comprenez. Il était apolitique de gauche, mais bon, voilà. Mais au moins, les étudiants de Sciences Po se l'offraient, se l'achetaient eux-mêmes. Là, c'est leur carrément offert. Vous avez encore d'autres petites trouvailles comme ça que vous avez vues passer donc dans cette université?
Oh, je pourrais vous en citer des dizaines, mais quand même rappeler que c'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Et avec cet argent public, on a donc des abonnements gratuits à Mediapart. On a également été la fac qui la première à lancer les toilettes non genrées. Hein, les toilettes non genrées, donc parce que vous comprenez.
Alors comment est-ce que ça se passe des toilettes non genrées?
Eh bien, ça se passe, en fait, pas très bien. Puis, c'est pas, je vous explique, hein. Vous avez donc des cabinets de toilettes. Vous n'avez plus la petite icône féminine et masculine devant les portes. C'est libre accès pour tout le monde.
Et mais en fait. C'est le paradis des exhibitionnistes.
Ça doit être ça. Mais alors, non, en fait, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les filles continuent à aller d'un côté, les garçons de l'autre.
Ah, mais les filles sont nazies, alors les LGBT sont nazies.
Mais écoutez, je pense que. C'est une question à poser. Il faut se poser la question.
Parce que, évidemment, que le rêve des garçons, c'est d'aller dans les cabinets des filles, forcément.
Mais bien sûr.
Ah, ouais, comme quoi, ça a du bon, ça a du bon pour eux, en fait, ce wokisme. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc, non-genré. On a le droit aussi de dire qu'on est ni mâle ni femelle.
Ah bah, bien sûr. Ouais. Bien sûr. D'ailleurs, je vais pas dire que c'est recommandé. Je n'irai pas jusque-là. Mais, en tout cas, sachez que si c'est le cas, vous aurez toutes les excuses du monde si vous vous sentez mal dans votre peau et que vous ne pouvez pas rendre un devoir, bien entendu.
Alors, je sais que dans au moins une école, mais je ne sais plus laquelle, les garçons, les coquins, quoi, profitent de l'excuse des menstrues pour dire « Ah ben non, j'ai eu mes règles. » Ah bon, vous avez eu des règles, vous?
Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme ou une femme? Qu'est-ce que vous dites que je suis une femme?
Et donc, ils arrivent à sécher les TD, puisque les TD, eux, la présence est notée, c'était très différent de ce que j'ai connu, moi. Et donc, ils arrivent à sécher comme ça.
Bien sûr.
Bon, de toute façon, ils ont autre chose à faire que qu'étudier, et puis encore une fois, qui pourrait leur enseigner quelque chose, hein, monsieur machin là, qui confond le chrisme et l'abord, et avec je sais pas quoi, une croix gammée, j'en sais rien. Donc il y a ça, oui. Et qu'est-ce qu'il y aurait encore d'autre?
Alors, on envoie, vous savez, des vertes et des pas mûres. On nous fait lire des livres, par exemple. Je prends l'exemple de la fac de lettres. Des livres. Je pourrais vous citer le titre si vous le souhaitez. Pleine de grâce. Tel est le titre du livre où c'est une personne qui transgenre, qui voit apparaître la Vierge et qui lui demande de créer, ça se passe en Amérique du Sud, tout un camp à côté de Rio de Janeiro avec toutes les personnes, ce qui s'appelle queer, gay, bi, trans, et d'aller adorer la Vierge tous ensemble, parce qu'elle leur apparaît régulièrement.
Il l'adore alors. Il l'adore. Donc il y a deux hérésies déjà. La Sainte Vierge. Je suis pas absolument certain que ce soit son kiff, pour parler comme eux, comme les jeunes. Mais en plus, on n'adore pas la Sainte Vierge, on la vénère. Ça n'est pas une idole, c'est pas. Mais vous savez, le Saint Curé d'Ars disait, retirez un prêtre d'une église, tout le monde y reviendra, mais pour y adorer des bêtes. Et là, c'est la même chose.
C'est exactement ça.
C'est le paganisme qui fait que maintenant, on pourrait adorer. Alors, une fausse Sainte Vierge, c'est au moins une consolation. Sainte Vierge queer et LGBTQ, donc ça n'a pas l'air de. Bon, enfin, on ne sait jamais.
C'est une professeure, en l'occurrence, qui était relativement jeune, doctorante, et qui s'orientait pour devenir une réelle prof d'université. Elle était encore à ce moment-là pas encore professeure d'université, mais c'était son objectif. Donc, je suis sûr qu'elle enseignera plein de choses comme ça, fantastiques, à ses élèves, je n'en doute pas.
Vous parliez aussi des cours d'anglais.
Tout à fait.
Ça, c'est
alors,
pas mal.
Il y a une tradition anglo-saxonne, notamment américaine, bon, qui est, grâce à Trump, est en train de reculer un petit peu, mais qui est, quand on annonce son nom, de préciser les pronoms qu'on doit utiliser pour parler de vous. Donc, je m'appelle André, mon pronom est il et son. Voilà. C'est la même chose en anglais, donc. My name is Andrew, my pronouns are he, him. Eh bien, pour marquer le fait que je m'identifie comme masculin et que donc il faut parler de moi au masculin. Mais je peux aussi très bien dire je m'appelle Andrew, hein, André, et je veux être elle et ça. Je peux m'identifier comme féminin. Donc, toujours préciser les pronoms quand on annonce son nom.
C'est inouï.
Et une professeure d'anglais nous a demandé, on l'avait pour le premier jour de cours, de nous présenter et de dire nos pronoms. Mais écoutez, malheureusement, je n'ai pas été très coopératif. Alors, je n'ai pas hurler et claquer la porte de la salle, j'aurais pu. Je ne l'ai pas fait, je me suis contenté de dire que mes pronoms étaient des prénoms normaux. Les prénoms qui correspondaient à mon physique, je suis normal, voilà.
Ouais, dit, vous bon, êtes nazi.
Elle l'a pensé, elle l'a pensé. Par contre, ouais. Vu les notes que j'ai eues tout le reste de l'année, alors que j'ai un niveau d'anglais, je pense qu'il était peut-être pas celui de la professeure, mais pas loin, qui était tout à fait correct. J'ai eu pas mal d'aventures en Angleterre, à droite, à gauche, j'ai un anglais... tout à fait potable. Je pense que je me suis fait gentiment saquer, oui.
Oh là là, c'est extraordinaire. Vous me faites penser à une personne que j'ai connue, qui, une personne qui pourrait être ma fille, hein, bien entendu, qui, elle, est entrée à Normale Sup. Alors, Normale Sup, c'était une école réputée, bien que gangrénée par le marxisme, mais c'était des marxismes, je le répète, pour revenir à Pierre Manon et Marcel Gauchet, c'était des marxistes qui lisaient le grec dans le texte quand même. Hein. C'est la première génération, alors c'est de leur faute si tout est arrivé, mais eux, ils n'ont pas fait naufrage. Ils se sont contentés de percer un trou et ensuite, le naufrage a eu lieu après. Et alors, on arrive à Normale Sup, qui évidemment maintenant ne veut plus rien dire, mais autrefois, c'était quelque chose. Et quand elle s'est inscrite, il y avait le nom, prénom, alors sexe mâle, femelle, ou autre, bien entendu, elle a écrit autre. J'espère que vous avez écrit autre. Mais oui, évidemment, j'ai écrit autre. Et ça vous donne une idée de la rigueur intellectuelle dans cette école qui autrefois était bon.
Mais c'est le cas aujourd'hui dans l'université de Bordeaux. Hein. Vous pouvez mettre autre sans aucun souci. Ça fait ça fait partie des propositions. Tout comme l'écriture inclusive qui est omniprésente.
Bien entendu. Alors, je lis là un message. Bonjour, j'ai eu Lionel Jospin, directeur de l'IUT de Sceaux. Et notre professeur d'économie, qui nous encourageait à manifester et sécher les cours. Bah oui, c'est quand même un grand classique du Parti Socialiste, et on connaît sa carrière brillante, puisqu'il sera 5 ans durant Premier ministre. Quand on a 18 ans, on ne dit pas non pour aller se dégourdir les jambes, dit notre auditeur. Et en effet... j'ai un autre, alors quelqu'un qui entre un peu dans la profondeur de la question. Les franchises universitaires datent du temps où l'université était sous la férule de l'Église qui appliquait son droit canon. Il était donc logique que le droit du pouvoir politique ne s'y appliquât pas. Mais dans ce régime, le nôtre, qui se veut universitaire et égalitaire, ça ne sert plus qu'à permettre toutes les dérives aux frais du contribuable et des subventions menées par des réseaux d'influence opaques, voire étrangères. On ne peut plus parler de qualité des enseignements, la finalité légitime est bafouée. Il faut donc d'urgence abolir ces exceptions au droit commun et d'autre part généraliser ce qui se fait en médecine, c'est-à-dire ouvrir l'accès à l'université par un concours par spécialité avec un nombre de places limité aux besoins du pays. Alors c'est vrai que identifier les besoins dans les sciences molles, c'est pas très facile à faire. Quant à la médecine, je suis de la génération qui a assisté, disons, au sabotage de la médecine avec le numerus clausus. Maintenant, le numerus est abertus, mais il est trop tard. Et alors, on n'avait pas prévu à l'époque, ça permettait de maintenir les médecins, les futurs médecins, dans une position sociale avantageuse. On n'avait pas vu venir, évidemment, la submersion démographique par l'immigration. Et donc, vous bloquez l'accès aux soins, enfin, aux études médicales, mais en même temps, la population passe de 53 millions à combien ? 67. Donc, avec 14 millions, sachant que cette population de 53 millions ne se reproduisait pas, elle était tombée à 1,8. Hein. Donc, 14 millions d'étrangers et qu'il faut soigner. Et comme vous avez empêché les gens de devenir médecins, vous voyez, le numerus clausus, ça a été la catastrophe. Alors, les Parisiens connaissent pas ça, mais en province, c'est ce qu'on appelle le désert médical, la désertification médicale, même dans des préfectures, dans des villes de préfectures, hein, pas seulement dans les trous paumés de la Creuse ou de la Lozère. Hein.
Non, non, y compris dans les grandes villes d'ailleurs. Hein, je vais vous contredire légèrement, on dit parfois que Paris est le premier désert médical de France. J'entends dire ça régulièrement.
Alors moi qui habite en province, je peux vous dire que si je veux un rendez-vous rapide, j'appelle Paris. Il se trouve que, heureusement, je suis aussi parisien. J'appelle Paris et là, j'ai mon rendez-vous. Ça, en tout cas, mon expérience à moi, c'est celle-là. Hein. Alors, revenons quand même à nos petits moutons. Donc, on avait les toilettes non genrées. Ça, c'est donc le wokisme. On a les toilettes, nos genres. Et bien sûr, les filles en ont marre qu'on leur reluque le... je sais pas quoi.
Bien entendu, peut-être aussi pour quelques... question de propreté, peut-être également, ce qui peut arriver. Ouais. Non, mais bien sûr, donc en fait, c'est mis en place par l'université sous l'influence des syndicats étudiants, qui sont omnipotents dans ces universités également. Et en fait, les élèves eux-mêmes reviennent, enfin, ne l'appliquent pas, ne le font pas, même si ce sont les premières pour réclamer ce genre de bêtises-là. Donc, il y a une sorte de... là aussi, d'incohérence complète. Oui. Je pense qu'après, il y a un grand plaisir à casser les pieds à ceux qui dirigent et à montrer que ce sont eux qui décident. Ça, c'est fort probable également.
Puis on vit dans le mensonge, de toute façon.
Bien sûr.
On est dans l'époque du mensonge. Quelqu'un qui vous dit il faut m'appeler madame et mademoiselle, on peut lui demander donc des nouvelles de sa prostate, si c'est un homme, ou de ses périodes, si c'est une femme, quand c'est ni l'un ni l'autre, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est le mensonge permanent. En fait, ces gens-là vivent dans un monde parallèle. Mais c'est un peu comme ce type-là qu'on voit sur les tableaux, sur les plateaux télé sans cesse, hein, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Viktorovitch, je crois, et qui ricane à la mort. Et on se dit, est-ce que c'est simplement quelqu'un de particulièrement monstrueux et cruel, ou est-ce que c'est tout simplement, et je penserai pour la deuxième solution, quelqu'un qui est dans un autre monde, un monde parallèle, parce que quand même, pour se justifier, il dit les méchants, c'est les nazis, enfin les nazis, c'est les méchants, c'est-à-dire, avec un langage évidemment infantile. Je penserais pour cette solution-là, c'est-à-dire qu'il croit réellement que Quentin était un nazi, et que par conséquent, il était tout à fait naturel de le tuer, et quand il meurt, eh ben on rigole. Voilà le type d'individu qui encombre les plateaux télé constamment.
Parce que c'est un entre-soi, on reproche beaucoup, on a beaucoup reproché l'endogamie dans les milieux catholiques, les milieux bourgeois, mais aujourd'hui, bourgeoisie de gauche, y a un entre-soi évident. Et quand on se répète à longueur de journée que tout le monde, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi sont des nazis, que l'antifascisme doit gagner absolument, etc., etc., est-ce qu'on finit par s'en convaincre ? C'est fort possible.
Quand vous parlez de livres qu'on vous donne à lire, qu'on vous ordonne de lire, Pleine de grâce, etc., est-ce que il y a des livres qui sont tellement nuls que vous vous dites, mais comment vais-je faire pour avoir une vraie instruction littéraire, puisque vous vous destinez à être prof de lettres, si on me fait lire de la drouille, pour parler comme ceux qui, les antiquaires de livres, c'est les libraires, ils parlent de la drouille, quand c'est des livres qui n'ont absolument aucune valeur, ils disent c'est de la drouille. Est-ce que vous avez quelquefois ce sentiment-là?
Ah, mais totalement. Totalement. Moi, si je veux m'élever littérairement, si je veux apprendre, je ne prends surtout pas les livres, je ne me base pas sur les livres que l'on me conseille de lire ou qu'on m'oblige à lire à la fac.
Mais le problème, c'est que quand vous allez devoir passer vos examens, vous allez bien être obligé de commenter ces livres. D'en proposer une analyse, même s'il n'y a rien à analyser. Enfin, ça doit être terrible comme...
Mais sachez que c'est déjà le cas pour le bac de français actuellement. Je donne des cours particuliers parallèlement à mes études à de nombreux élèves. J'en ai eu au total de plus d'une cinquantaine. J'ai vu les drouilles, comme vous dites, qu'on leur fait lire. Je pense à un livre actuellement, un recueil de poésie sur la nature qui s'appelle « Mes forêts » d'Hélène Dorion, qui est absolument catastrophique et où on leur demande de commenter des choses où il n'y a rien à commenter, hein. Faire un commentaire de texte, c'est très bien, mais quand il n'y a rien à commenter, c'est comme Olympe de Gouges qu'on leur met dans tous les sens. On fait d'Olympe de Gouges et de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui était inconnue à l'époque, hein, elle était totalement inconnue, Olympe de Gouges. Mmh. Aujourd'hui, on en fait un éloge total, et les élèves ont ça en bac de première à travailler pour l'oral. Et donc, c'est le texte de loi, c'est la DDHC qui est féminisée en fait, hein. C'est ni plus ni moins que ça. Et on leur prend comme texte littéraire les articles de la DDHC qui ont été féminisés, qu'ils doivent commenter littérairement.
La DDHC, Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Oui. Et Et il y a effectivement une partie introduction, une partie conclusion, mais qui n'est absolument pas littéraire en tant que telle.
C'est ça.
Qui est quelque chose qui est plutôt juridique. Et c'est ce qu'on leur fait en français, pour bien les indoctriner, et bien leur mettre en tête, bien sûr, les idéaux révolutionnaires, leur faire croire que Colin de Gouges était une personne absolument fantastique, connue de tous à l'époque de la Révolution. Et bien sûr, les abrutir encore plus.
Mais il y a déjà quelques années quand même, au bac de français, on donnait à commenter, analyser, étudier une chanson d'un type, un excité de gauche qui s'appelait Pierre Perret. Et c'était une chanson antiraciste. Où vraiment les Français étaient des gens abominables, ils traitaient très très mal leurs immigrés, tout ça. Mais c'était littérairement, c'était sans valeur, aucune. On se disait, en fait, il faut que les lycéens apprennent ça pour leur remplir la tête de la haine de soi, la fameuse haine de soi, le côté diabolique de notre crise de civilisation contemporaine, c'est cette haine de soi qui fait qu'on voudrait se suicider. C'est typiquement diabolique, ça. Donc il y avait déjà ce problème-là, et évidemment ça n'a pas fait, ça s'est pas arrangé, quoi.
Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Et je pense qu'en plus il y a une erreur qui est faite, puisque à force de gauchiser les professeurs, qu'ils soient d'université, qu'ils soient de collège, lycée, dans tous les cas, l'étudiant doit être plus révolutionnaire que ceux qui lui enseignent. Donc, on a tendance à se gauchiser encore plus. Parce qu'il faut être rebelle. Si le prof est déjà rebelle, et puis il faut être encore plus rebelle. Un prof rebelle, il faut le devenir encore davantage. Donc, c'est ça aussi l'adolescence, c'est ça aussi être un jeune adulte aujourd'hui, quand on voit la mentalité de beaucoup. Donc c'est une fausse bonne idée pour l'éducation nationale de se dire aussi parfois on va se mettre les jeunes dans la poche en prenant des thématiques de gauche, des livres de gauche, des auteurs de gauche. Il provoque ce que répètent souvent certains intellectuels à la télévision, c'est-à-dire que la révolution va dévorer ses propres enfants.
Oui, bien sûr,
et
bien sûr,
ouais. Ils vont se retrouver eux-mêmes les fascistes dans quelques années.
La femme de Jospin dont vous parliez typiquement, tout à l'heure.
Typiquement. Mais même dans celles qu'on cite comme les grandes féministes, Elisabeth Badinter, donc Sylvie Nagasinski, aujourd'hui sont considérées comme des fascistes.
C'est des fachos, ouais.
Alors qu'à une époque que vous avez connue un peu moins, c'était des personnes qui étaient revendiqué, connu comme étant de gauche, totalement.
Ouais. On va passer le bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bon, on parlait de la malheureuse Sylvia Nagasinski, qui sème le vent, récolte la tempête. Lionel Jospin, qui encourageait à manifester, c'est chez les cours, me dit cet éditeur, quand il était directeur de l'IUT de Sceaux et professeur d'économie, quand même, c'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. C'est pas non plus Sandrine Rousseau, vous voyez, celle qui croit que des économistes se sont inspirés de Darwin en faisant... le nom m'échappe, cet économiste du 18e... comment il s'appelle ? Adam Smith. Voilà, Adam Smith, qui est un héritier de Darwin. Alors c'est un peu difficile en fait. Enfin, il faut dire que le temps est relatif, on le sait, hein, avec Einstein. Mais enfin quand même, Adam Smith est du 18e et Darwin du 19e. Donc on voit mal comment Adam Smith peut avoir été inspiré par Darwin un siècle à l'avance. Vraiment. Là au moins, Lionel Jospin, il parlait correctement. Je pense à un débat... le débat d'entre-deux tours de la présidentielle de 95, où Jacques Chirac parlait de « il faut pas changer toutes les décades ». Donc ça, c'est un anglicisme. C'est évidemment pas sur Radio Courtoisie qu'on va faire des anglicismes, puisque quand vous... Là, vous avez dit des choses en anglais, mais enfin, c'était dans le cadre d'une démonstration.
Dans le cadre d'une démonstration.
Donc vous n'aurez pas à mettre une pièce dans le petit cochonnet rousse qui est devant vous, là. Donc Jospin avait dit non, les décennies, pas les décades, hein. Enfin, en anglais, une décennie se dit une décade, parce que les Anglais savent pas parler, c'est normal, hein, puisque c'est, comme disait Clémenceau, c'est une colonie française qui a mal tourné. Donc voilà, ça c'était le Jospin qui au moins savait parler français. Mais ces gens-là, évidemment, ont semé les germes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Le problème, évidemment, c'est déjà ce contrôle de l'argent public. Je reviens à notre ami, à l'oncle, qui est en train de faire ce travail extraordinaire, et j'espère qu'il en tirera tous les fruits, pas seulement pour sa carrière, là je pense que c'est une chose acquise désormais, mais pour nous tous, hein, c'est-à-dire j'espère qu'il arrivera à faire quelque chose qui n'est pas du tout évident, il faudrait des renversements, une politique importante pour que on arrive au bout de cette crise, c'est le fait que l'argent public soit enfin complètement gaspillé, quoi. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça, s'agissant des universités, pour vous qui donc préparez votre CAPES dans des conditions forcément hostiles?
Alors l'argent public, c'est un gros mot, faut pas trop le rappeler quand même quand on est à la fac, hein. Vous savez, c'est de l'argent gratuit. Je vous parle même pas, bien sûr, des soyons fous, des lumières qui ne s'éteignent jamais, que ce soit matin, nuit, jour, du chauffage ou de la clim à fond, les portes grandes ouvertes, ça, pourquoi pas.
Soyons fous. Je vous interromps, mais je vais vous rendre la parole, bien entendu. Vous me rappelez un gauchiste qui racontait son histoire personnelle. Il disait, avant, je faisais des tours de prestidigitation sur la place Beaubourg. Très bien. Parfait, il faisait avec des balles, avec je sais pas quoi, il est bon. Et puis un jour, j'en ai eu marre de vivre avec l'argent des autres, alors je suis rentré à la poste. Deux remarques. À cette époque surtout, la poste, c'était vraiment les PTT, c'était totalement l'argent des autres. Hein. Mais d'autre part, il vivait pas avec l'argent des autres. Il donnait une prestation. On le payait pour cette prestation, ou on le payait pas d'ailleurs, c'était même pas obligatoire. Quand il faisait sa prestation devant le... Et on était très contents qu'il fasse ses tours de passe-passe. C'est extraordinaire. Mais lui, en fait, quand il était donc assis à son guichet à la poste, en fait, il vous rendait service. Vous voyez, il était bien gentil, hein, d'être là. Pour tamponner votre lettre. Il savait pas que c'était vous qui le payiez. Il était pas du tout au courant de ça. L'argent poussait dans les arbres, il y avait des jardins réservés aux PTT. Donc c'est un peu le même jeu, la même mentalité.
Mais c'est tout à fait ça, vous avez des personnels de l'université qui sont censés être au contact direct des étudiants, puisque c'est eux qui gèrent les emplois du temps notamment, et qui se mettent en télétravail 2 jours et demi par semaine, et qui sont injoignables.
Ah oui, ça c'est vrai. Il me reste encore... un enfant à l'université, il souffre énormément de ça. Il dit, c'est l'administration... Avant Internet, avant l'informatique que j'étais, je déteste Vieux-Conné. C'est ça, en fait, en plus de ça, c'est ce que je leur reproche le plus, c'est qu'ils m'obligent à Vieux-Conné. Mais nous, un problème administratif se résolvait tout de suite. C'est-à-dire on allait à l'administration et on présentait un problème à une personne vivante et qui vous répondait.
Alors, on y est presque. Hein. C'est à peu près ça. Aujourd'hui, vous arrivez à l'administration, vous présentez votre problème. Enfin, vous patientez 45 minutes avant quand même devant un guichet. On vous renvoie au bâtiment numéro 3BE auquel vous vous rendez.
Les 12 travaux d'Astérix.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et bien sûr, à la fin, quand vous arrivez enfin devant le bon bureau, soit il est déjà 16 heures passées et donc malheureusement la personne qui attendait déjà depuis 15h30 son sac à main sur la prêt à partir est déjà partie depuis un petit moment. Et quand par malheur vous arrivez à la voir, alors bien sûr ne soyez pas trop proche de l'heure de la fin de la journée, sinon elle vous dira qu'elle n'a pas le temps. Et alors vous pouvez aussi patienter devant la porte un moment, et en général vous pouvez les entendre prendre leur rendez-vous de pédicure, mais c'est du vécu ce que je vous dis, hein, c'est du vécu. Vous toquez, vous entendez non, enfin bien fort, on vous demande de patienter, et vous l'entendez. Alors mais vous n'auriez pas plutôt mardi 14h, ça m'arrangerait. Pourquoi pas un rendez-vous professionnel, mais pourquoi. Et quand vous entendez derrière, mais est-ce qu'il faut des brassards pour les petits qui ne savent pas nager? Quand vous êtes à l'université, vous vous doutez que c'est pas, que c'est pas, voilà. Et en fait, vous comprenez derrière qu'elle est en train d'organiser ses vacances pour les petits. Ouais, voilà.
Ouais, c'est ça. C'est un problème parce que je sais que cet enfant, le dernier de mes enfants qui est étudiant, me dit c'est effrayant, on n'arrive pas à les contacter, il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'il y a personne, il y a pas en fait on n'a pas de vis-à-vis, il y a pas de référent, il y a rien.
Non,
c'est une machine
pour envoyer des mails, notamment les mails automatiques, il y a aucun souci, ça fonctionne. Mais dès que vous voulez avoir une personne en face de vous, vous avez intérêt à vous y prendre en avance. Sauf que parfois il y a des problèmes importants qui se passent notamment parfois lié à l'administration, aux inscriptions. Et c'est des choses, c'est bête, hein, mais ça peut vous gâcher une année. Et quand vous n'êtes pas inscrit à un cours, qu'un prof vous refuse car vous n'êtes pas inscrit, bon, la salle est quasiment vide puisque personne ne vient. Mais
personne n'est inscrit par la machine.
Parce que si les gens sont inscrits, mais vous savez, c'est la fac, donc ira la semaine prochaine. Ouais. Et quand vous êtes motivé pour y aller, vous voyez qu'une salle, il y a 3 personnes alors qu'il est censé y en avoir 40, et que la professeure vous dit non, mais vous n'êtes pas inscrit, mais je serai inscrit la semaine prochaine, il y a un souci informatique, laissez-moi assister à votre cours. Ouais. Ah non, monsieur, désolé, vous n'êtes pas inscrit. Bon, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire?
Ce qui est extraordinaire, parce que, en fait, vous me faites. Moi, j'ai connu évidemment tout à fait autre chose. Quand j'ai enseigné à la fac, quelqu'un entrait dans la pièce, enfin surtout quand c'était évidemment des amphithéâtres, qu'est-ce que ça pouvait nous faire du moment qu'il nous empêchait pas de faire cours? Il s'asseyait dans son coin, et moi-même je le faisais. Il y a des cours auxquels j'ai assisté, j'étais absolument pas, non seulement pas inscrit, mais je suivais même des cours dans des universités où j'étais pas inscrit. Je me souviens, écoutant le professeur de droit fiscal Jean-Claude Martinez, par exemple, à Assas, j'allais l'écouter parce que j'avais un frère qui était étudiant là-bas, et c'était très intéressant, bien sûr, assez technique quand même, hein. C'était du droit fiscal, mais enfin, personne ne me demandait rien.
Alors là, en l'occurrence, il s'agissait plutôt de t'aider, mais c'est d'où l'explication. Ouais. Mais pour vous donner une anecdote, puisque vous en parlez, ma propre mère, qui était dans une autre matière, dans la même fac que moi, il y a une trentaine d'années, peut-être même 40 maintenant.
Le temps passe.
Ayant un nom un petit peu long, un nom rallonge, comme on dit, pour des raisons familiales anciennes.
Ne dépendaient pas d'elle.
Exactement. ma chère mère se prenait sur les feuilles d'appel des croix gammées à côté de son nom, ou des vive Le Pen, des choses comme ça. Et ça a été pour elle insupportable. Les profs, notamment, l'embêtaient pas mal également. Et elle s'est retrouvée, finalement, à traverser, à faire 100 mètres de plus, et aller suivre les cours de droit qui l'intéressaient, en fait, plus, et où elle avait des amis, alors qu'elle n'était absolument pas inscrite, et qui était pour elle beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympa à faire.
Vous voulez dire que c'est le prof qui dessinait une croix gammée à côté de son nom?
Prof, élève, on ne sait pas
comme,
forcément.
Comme acte de présence, enfin une croix pour marquer sa présence.
Tout à fait. Au moment, où elle devait, ou à un moment où elle signait, où la feuille passait, où elle devait signer, effectivement, elle se retrouvait avec une croix gammée à côté de son nom. Est-ce que le prof directement l'avait mis? Est-ce que c'était d'autres élèves? Je ne saurais pas vous dire. Mais ça montre un petit peu la mentalité. Et ça, pour le coup, c'était déjà il y a quelques années.
Oui,
donc,
vous
voyez, quand je dis que ça, malgré tout, cette ambiance gauchiste à l'université a toujours existé, existe depuis un moment. C'était peut-être encore à son époque un petit peu plus facile qu'aujourd'hui pour pouvoir discuter et débattre. Aujourd'hui, voilà, c'est terminé. C'est terminé.
Donc, quand on parle de gaspillage des ressources, enfin de l'argent public, quand vous parlez justement aussi de ces problèmes administratifs, car en fait, ils se sont aggravés alors qu'ils auraient dû être... Ah oui, tiens, je peux citer aussi le cas d'une personne qui... alors, à mon temps, dans ma génération, quand vous passiez une licence, à partir de la licence, vous aviez votre vie entière pour passer votre licence. Et donc, cette personne, elle avait passé les premiers... Enfin, on n'appelait pas ça des certificats, je ne sais plus comment on appelait ça. Oui, enfin, ça revient au même. De certaines matières de la licence, elle n'avait pas tout passé. Donc, elle n'avait pas validé sa licence, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Après quoi, elle a voulu reprendre sa licence. Les papiers étaient perdus. Donc en fait, ce qu'elle avait fait, la première ce qu'on lui avait faite n'avait pas été tenue. Bon, ça c'est une petite anecdote que je sors. Mais en définitive, ça n'aide pas tout cela, les étudiants, à mieux réussir leurs études. Je crois bien que les chiffres sont catastrophiques.
Ah ben écoutez, le taux d'échec en première année aujourd'hui à l'université, il est de 60%. Ouais, vous avez 60% des étudiants en université qui n'ont pas leur première année, le chiffre n'a jamais été aussi haut. Donc je pense que...
Dès la première année, donc ça préjuge même pas de l'ensemble, c'est-à-dire de la licence qui c'est en 3 ans. Donc
tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Et imaginez un petit peu ce que ça coûte à l'État.
Ouais, absolument. Et d'ailleurs, là, il y a une supercherie supplémentaire, c'est qu'un étudiant coûte à l'État plus cher que le prix d'une scolarité, disons, dans une école de management... moyenne, où c'est 8 000 euros par an, l'étudiant, il en coûte 10.
Bien sûr.
Et ça, les gens ne le savent pas. Ils s'imaginent que, sous prétexte qu'effectivement, on ne paye presque pas ces études-là universitaires, alors que les études en alternance... Enfin, quand elles sont en alternance, c'est l'entreprise qui les paye, mais on se dit, ah là là, qu'est-ce que c'est cher, 8 000 euros par an. Bien sûr, c'est cher. Mais en réalité, c'est ce que coûte, c'est même pas ce que coûte un étudiant.
Bien sûr.
Dans le public. Et ça, les gens ne le savent pas du tout.
Non, mais les gens n'en ont absolument pas conscience. Après, l'université, l'État ne fait rien non plus pour le rappeler.
Ouais. Bah oui, forcément, ouais, forcément. Ouais.
Mais bien entendu, les gens n'en ont absolument pas conscience. Et ce que payent les étudiants en faculté, ce qu'on appelle la CVEC, la contribution à la vie étudiante et au campus, cet argent, donc c'est à peu près, aujourd'hui, ça représente à peu près 110-120 euros, approximativement.
Annuel. D'accord.
En plus de l'inscription que reçoit la fac, et qui est censé servir à, vaguement, à créer des événements ou créer des projets pour les étudiants, décidé par les étudiants, pour beaucoup, par le conseil d'administration de la fac, auquel appartiennent les élus étudiants.
Alors donc, ça peut être quoi,
syndicats.
Les frais de transport de Rima Hassan, c'est quoi, c'est...
Typiquement, non, alors là, récemment, dans différentes facs, par exemple, j'ai des groupes de parole non genrés.
Oh la vache.
Vous voyez un petit peu. Ouais. Vous avez des séances de câlinage d'arbres. Voilà, on va payer des entreprises qui vont venir vous apprendre à câliner des arbres. Voilà, pour ressentir l'énergie naturelle et je ne sais quelle... voilà, bon, il y a des choses qui m'échappent. Je ne dois pas être assez sensible à ces questions-là. Je suis peut-être un peu trop à droite pour le coup.
Et donc ça, c'est de l'argent qui va servir à des escrocs.
Tout à fait.
Qui vont faire du câlinage d'arbres. Parce qu'en fait, en plus de ça, on va payer une entreprise pour faire ça, une entreprise de câlineurs d'arbres.
Voilà, on va payer effectivement des... Mais alors, je vous rassure, hein, des villes font exactement ce genre de choses-là. Hein.
Ouais, je sais que Poitiers fait ça, par exemple. Je sais que...
Après renseignement, j'ai découvert que plusieurs universités avaient contacté ce genre d'entreprise-là et se faisaient ce genre de choses-là. On marche sur la tête. Voilà.
Donc voilà où passe l'argent des Français dans le pays le plus imposé au monde. Alors, il y a aussi de la redistribution. Enfin, c'est le pays le plus imposé au monde. Et voilà, ça peut payer aussi des câlineurs. Donc, votre métier... Ah, j'adorerais rencontrer un câlineur. d'arbres. Mais, alors, donc ça, c'est des activités proposées voilà. dans le cadre de votre CVEC,
qui donc, qu'on appelle aussi la CVEC, et que tout étudiant paye, sauf bien sûr les étudiants boursiers qui, eux, en sont exonérés. Ouais. Voilà. Mais vous imaginez un petit peu, c'est fou, c'est fou.
Donc, on n'imagine absolument pas un conférencier qui viendrait parler de l'art du vitrail. Au XIIIe siècle, non, il faut que ce soit...
Non, ouais, voilà. non, absolument pas.
Que ce soit des choses non genrées.
Non genrées, de gauche, donc, bien de entendu. Gauche, oui. Et faites attention, le vitrail, c'est quand même un petit peu connoté.
Bah oui, c'est chrétien, enfin c'est nazi.
C'est,
quoi.
Bah oui, vous le dites.
C'est nazi, puisque le chrisme, c'est nazi, donc... Mais, oui. Ah là 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 là. Bon ben, bah, à votre avis... On va où avec ça? Parce qu'on a une idéologie qui imprègne complètement l'université.
Alors,
jusqu'à la moelle, là, pour le coup.
Jusqu'à la moelle, et je ne vois pas comment cela pourrait changer. On a des gens qui sont très bien installés, je parle notamment des professeurs, des dirigeants de l'université, qui ont des salaires qui sont tout à fait correct, hein. très confortable.
C'est quand même pas l'audiovisuel public, mais c'est
mais
bien.
On s'en rapproche. Moi, j'ai hâte que Charles Laloncle finisse avec l'audiovisuel public pour passer aux universités. Ça me ferait très plaisir. Mais on a, je vois pas effectivement qu'est-ce qui pourrait provoquer un changement. Et sur, par exemple, une solution qui a été évoquée par un auditeur tout à l'heure, qui est conditionner l'accès à l'université à des examens, des choses comme ça. Donc en fait, la sélection à l'université, je ne vois pas comment ça peut être appliqué aujourd'hui. L'université est contre, et les syndicats étudiants sont contre, et aujourd'hui, les syndicats étudiants sont omnipotents.
Et il faut quand même aussi préciser, rappeler que... c'est le bac qui est le diplôme d'accès à l'université. Les gens croient que c'est le diplôme de fin d'études. Non, c'est le diplôme, votre premier diplôme universitaire, c'est le baccalauréat qui vous fait entrer à l'université. Et je dois reconnaître que le cancre que j'ai été dans ma jeunesse, s'il avait fallu appliquer vos solutions, ne serait jamais rentré à l'université. Parce que alors avec des examens d'entrée, etc. Puis en plus de ça, sur quelle base se poserait, disons, votre examen d'entrée? Parce que si c'est aussi des épreuves de câlinage des arbres et de... Oui.
Non, mais vous savez, on peut faire l'examen d'entrée, ça peut être très très simple, parce que quand vous voyez les profils qui arrivent à l'université, ne serait-ce que parfois vérifier que l'étudiant qui arrive à l'université sait lire et écrire, déjà, vous en éliminez quelques-uns. Vous éliminez quelques... Eh bien oui, parce que c'est pratique pour les bourses. L'université, c'est très pratique pour toucher les bourses. Donc, en fait, ne serait-ce que s'assurer que la personne qui débarque dans la discipline, dans la faculté, sache lire, sache écrire, sache éventuellement répondre
aucun,
à quelques questions de culture générale des plus basiques, ne serait-ce que ça, vous feriez du ménage. Et vous feriez du ménage et vous permettriez aux personnes qui arrivent dans l'université en question s'assurer qu'elles aient au moins 2-3 choses dans le cerveau. Il ne s'agit pas de faire une épreuve, vous n'allez pas faire une épreuve de droit pour des gens qui arrivent en faculté de droit alors qu'ils n'ont jamais fait droit de leur vie, mais des choses très simples.
Mais alors, est-ce que vous avez croisé des gens, parce que là on se dit, mais comment ont-ils pu avoir leur bac?
Mais bien sûr, bien sûr.
Des gens qui savaient ni lire ni écrire.
Bien
ni
sûr. Moi, la période où j'ai été en droit, on avait un éternel étudiant de première année de droit, qui en était sa sixième ou septième première année.
Mais alors, pourquoi était-il là? C'était un militant ou un
alors,
étranger?
C'était un militant dans les syndicats étudiants. De ouais, un. Ouais. Et c'était quelqu'un qui touchait des bourses, qui avait de l'argent qui tombait tous les mois,
ouais.
Et qui donc n'avait aucun intérêt à partir de là où il était. Je pense que cette personne-là n'avait pas le niveau, tout simplement, pour ne serait-ce qu'aller en deuxième année, et je pense qu'il n'avait même aucune envie de le faire, mais que la situation était très confortable. Et puis c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui tombe du ciel, c'est fantastique. C'est fantastique pour eux. Donc... pas besoin de travailler, il y a besoin juste de montrer sa tête aux examens, même pas besoin de... On rend copie blanche, c'est pas grave, même pas besoin de rendre quelque chose, vous avez rendu une copie. Hop, votre bourse est revalidée.
Mais alors, oui, parce que alors, je vais encore vieux conner. De mon temps, il y avait un barrage administratif qui était ce qu'on appelait le diplôme d'études universitaires générales. Vous ne pouviez pas passer votre vie à préparer ce DEUG, ce qu'on appelait le DEUG. Il fallait qu'à un moment, vous franchissiez cette étape. Après, effectivement, vous pouviez rester en licence toute votre vie, en principe. Mais là, donc ça n'existe plus. Et la personne que vous avez rencontrée, c'était un Français, c'était quoi?
Alors, de mémoire, c'était un Français.
Ouais.
Mais
en fait, c'était un militant politique.
Mais c'était un militant politique.
Donc, c'était
un militant politique.
Monde, ouais.
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr.
Ouais. Alors, j'ai ici un message. Vous savez qu'ici, il faut que je vous prévienne, à Radio Courtoisie, nous sommes en direct et donc les auditeurs peuvent nous envoyer des messages. On ne peut pas prendre tous les messages, mais enfin, il faut en prendre quand même. Alors, un titre, « Si l'université est contre, il faut casser l'université, c'est elle ou le pays ?» Alors, je cite, « L'agent administratif de votre faculté ne vous a pas dit que vous coûtiez cher et que vous étiez inutile, c'est que vous n'étiez pas étudiant en médecine dans les années 70, où nous avions le bonheur de bosser 6 jours sur 7 entre 5 et 6 heures le matin pour avoir le privilège d'établir le dossier du malade, de faire le premier examen complet, de mettre à jour les résultats d'examen, de les analyser avant d'avaler un sandwich en allant au cours l'après-midi. » Et la personne qui avait au moins son brevet se permettait ces observations intelligentes. Il faut généraliser les emplois sous contrat dans l'enseignement supérieur et en finir avec les sinécures à vie, que ce soit dans les bureaux ou chez les profs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors ça, c'était une plaie que j'ai bien connue quand j'étais étudiant. C'est que un mauvais prof, mais évidemment mauvais prof, que ce soit d'ailleurs à la fac, j'ai vécu la même chose au conservatoire, puisque j'ai fait les deux études parallèles. Un mauvais prof, il était titulaire, il n'y avait rien à faire.
Mais...
je me souviens d'un prof d'harmonie. C'est une matière, disons, exigeante. Hein. C'est le début de l'apprentissage de l'écriture musicale, de la composition. Il était nullissime. C'était, alors, je ne dis pas en tant qu'harmoniste lui-même, hein, mais en tant que prof, c'était absolument impossible. Il était tellement autiste, si vous voulez, qu'on ne pouvait rien comprendre. Et il y a une année, il n'y avait plus qu'un seul élève dans sa classe. Un seul. C'était quand même un constat d'échec. Eh bien, pas du tout. Non seulement lui, comme il était tellement nombriliste, il disait « Oui, mais c'est qu'ils n'entendent rien. » Alors, j'ai eu le bonheur de faire partie des rebelles, justement, et j'ai été instruit, ça dira quelque chose, à quelqu'un qui est devenu célèbre, mais qui n'était pas du tout à l'époque, qui était Pierre Pincemaille, qui malheureusement est mort. Enfin, il a tout fait pour, s'il fumait comme un pompier. Mais c'est un très grand professeur. Non seulement il est connu comme organiste international, Pierre Pincemaille, il a aussi été un grand professeur d'écriture. Et heureusement que j'ai connu lui plutôt que l'autre. Mais j'étais inscrit avec l'autre. Et voilà, on pouvait pas y toucher. Il y avait aussi un grand spécialiste. Alors là, c'était à la fac, un grand spécialiste. Il était nullissime. Il était presque fou. Et on pouvait pas y toucher puisqu'il était fonctionnaire. Donc ça, c'est vrai.
C'est le problème du statut de fonctionnaire aujourd'hui en France.
Ouais.
Ça fait partie de ces bêtises.
Ou alors il faut qu'il soit militant le péniste.
Ah.
Là, pour le coup, oui.
Là, on peut trouver un moyen.
On peut trouver un moyen.
Mais le statut de fonctionnaire, l'emploi garanti à vie jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, dans la situation économique que connaît le pays, dans les problèmes administratifs que l'on connaît, si l'État était honnête, il dirait que ce n'est plus viable et que ce n'est plus possible, il ne le fera jamais.
Il se mettrait à dos les fonctionnaires.
Exactement.
Qui sont quand même de gauche, et donc
bien entendu.
C'est toute une rente, ça.
Bien entendu.
Alors, il fut un temps où c'était justifié, si on peut dire, entre guillemets, par le fait que les fonctionnaires étaient en moyenne moins payés que dans le secteur privé. Cette affaire-là, ça s'est terminé dès le début des années 90, c'était fini, ça. Les gens du secteur privé, protégés, étaient payés aussi bien que ceux du secteur... ceux du secteur public, protégés, étaient aussi bien payés que ceux du secteur privé. Donc ça ne se justifie même plus de cette façon-là.
Et aujourd'hui, les plus bas salaires que vous avez souvent, je parle dans les municipalités, par exemple dans les collectivités territoriales, sont parfois pris dans des entreprises privées. En fait, c'est des contrats, des contractuels.
Ouais.
Et ce sont les personnes les mieux payées, les catégories A+, A, B, qui, elles, sont fonctionnaires et ont ce statut-là avec des salaires plus que convenables.
Ben oui, par rapport, surtout dans une période où il y a une tentation de rétablir l'esclavage sous une forme sournoise, dans le privé et ailleurs. Et comme les gens, on leur a appris tellement de bêtises sur l'esclavage qu'ils sont incapables de le voir revenir dans sa réalité. Eux, ils voient que des choses complètement infantiles. Oui, donc ça, c'est intéressant ce que nous dit cet auditeur. Il faut en finir aussi bien dans les bureaux que chez les profs. Effectivement, dans une entreprise, quand quelqu'un donne pas satisfaction, bah, on le remplace. Et voilà, c'est comme ça. C'est le gros avantage des organismes totalement privés. Ça m'est arrivé d'enseigner dans des écoles comme celle-là. Un prof était mauvais, je le remplaçais. J'ai été responsable de certain nombre de profs, je le remplaçais. Puis voilà, je prenais quelqu'un d'autre. Non, c'est terrible ça, c'est vraiment une vraie souffrance pour des étudiants qui sont obligés de subir. Bon, enfin, de toute façon, la plupart de ceux dont on parle, là, ils sont pas là pour ça, donc ils sont là pour la Palestine.
Bien sûr.
Donc ils bloquent, et c'est comme ça que la situation se débloquera.
Bien sûr.
En Palestine.
C'est connu.
Bloquée depuis 47, et là, elle se débloque par un blocage des universités à Paris, Rennes... Nantes, on n'a pas évoqué, Lyon bien sûr, enfin toutes ces villes très rassurantes pour la vie universitaire. On fait peut-être une petite pause musicale un peu pour se détendre et il nous reste quelques minutes ensuite à disserter. Quand même pas se quitter sur un suicide collectif de nos auditeurs. On n'a pas vocation à refaire la secte Waco ou la secte Guyana. Y a-t-il quand même un peu d'espoir, cher André ?
Alors, on peut dire que oui, c'est vrai que ça paraît assez mal parti. Une des choses qui peut-être peut nous donner un petit peu d'espoir, c'est les syndicats étudiants, qui aujourd'hui sont très majoritairement à gauche, pour dire d'extrême gauche, hein, et parfois même assez violents. Il y a quand même, depuis quelques années, l'UNI qui revient doucement en force après quasiment 15-20 ans où il avait quasiment disparu. Et c'est assez encourageant. Petit problème, malheureusement, deux syndicats de droite étudiants se font face là où un seul serait peut-être nécessaire, puisqu'il y a également un syndicat appelé la cocarde étudiante qui est un peu plus à droite.
Donc la division de la droite.
Donc la division de la droite continue, ouais. Voilà. Ouais. On a la droite la plus con du monde, comme disait le Luron et comme disaient d'autres. Ouais. Mais. Petit à petit, on regagne des sièges, ils regagnent des sièges, et on peut espérer que, à terme, s'ils arrivent à faire campagne sans être harcelés et humiliés par la gauche à chaque fois qu'ils distribuent des tracts ou qu'on appelle à leur casser la figure, ça peut changer des choses au sein des conseils d'administration des universités, notamment par rapport à l'utilisation de la CVEC, justement.
Oui, c'est ça. Oui, pour qu'on cesse de câliner les arbres. Moi, j'aime beaucoup les arbres. Hein. Idéfix aussi aime beaucoup les arbres. De là à payer des câlineurs d'arbres, je suis même pas sûr qu'Idéfix lui-même aurait approuvé.
Puis, est-ce que les arbres sont consentants ?
Ah oui, c'est vrai ça.
Les arbres sont-ils consentants pour qu'on les câline ?
Mais c'est comme la Belle au bois dormant.
Mais bien sûr.
Dans cette culture du viol qui est réveillée sans son consentement par un baiser sur ses lèvres. Eh ben les arbres, ça doit être à peu près pareil. Il faudrait interroger les arbres. Je pense que ça pourrait être utile. Alors, on va pas, sur cette note tout à fait optimiste, on va quand même se quitter. Et merci beaucoup, André, pour ce témoignage, cette présentation, évidemment, dans un contexte très, très difficile, très douloureux, qui est celui de la mort de Quentin, le meurtre de Quentin. Voilà, c'est comment les choses se passent dans les universités françaises aujourd'hui. Jusqu'à présent, j'avais interrogé des professeurs, toujours des professeurs, aussi bien du supérieur que du secondaire. C'est la première fois que j'interrogeais un étudiant lui-même. Fut-il un grand étudiant ? Vous êtes quand même étudiant encore. Et c'était intéressant de voir comment, évidemment, vos deux constats convergent. Chers éditeurs, à la prochaine fois. Dans 4 semaines, nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures.
D'entendre le libre journal d'Yves-Marie Adeline, dirigé par Yves-Marie Adeline, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 23 février 2026 de 14h à 15h30, réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.